Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi. Linda Christelle Ballier.
Bonjour à tous. En titre de ce 12h, le Conseil régional du Poro tenait sa première réunion ce week-end, au cours de laquelle le président Fidel Sarasoro a décliné les différents pans de ses actions pour le développement de la région. En économie, la fin des taxes douanières entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne pourrait faire disparaître les entreprises locales parce que celles-ci sont moins compétitives et ne répondent pas forcément aux normes internationales, selon les explications de Dr Germain Cramo, enseignant en économie, que vous entendrez dans ce journal. Dans l'actualité internationale, la France suspend les adoptions d'enfants à Madagascar. Et enfin, d'édition, dans l'invité de la rédaction, les forces et les faiblesses du PPACI seront abordées par le politologue professeur Simplice Dion, qui répondra aux questions de Constant Maillet. Voilà pour le sommaire. La première réunion du Conseil régional du Poro, qui a eu lieu le samedi 21 octobre dernier à Korogo, a été consacrée à l'aspect organisationnel des actions prévues par le dit Conseil, qui, de cette organisation structurelle pour atteindre les objectifs du Conseil régional du Poro. Quelles sont ces actions, justement? On écoute les explications de Fidel Sarasoro, président du Conseil régional du Poro, dans des propos recueillis par Marcel Bonny, notre correspondant régional.
Cette première réunion a pour principal objectif de mettre en place les principaux outils de fonctionnement qui vont régir notre action à la tête de la région. Car il s'agira pour nous de définir le règlement qui va déterminer notre façon de travailler au regard des textes qui régissent le fonctionnement des collectivités territoriales. Il s'agira de la mise en place des commissions permanentes de travail. À cela s'ajoute l'installation du comité économique, social et environnemental régional, un organe consultatif qui a pour rôle de porter un regard critique sur nos actions. Notre action cible en effet la sauvegarde de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie, l'autonomisation de la femme, l'insertion socio-professionnelle des jeunes à travers la formation. Tout cela sera notre guide. Bien entendu, les infrastructures sociales de base dans les secteurs de l'éducation, la santé, l'eau potable ou encore des infrastructures économiques comme les routes, les aménagements d'espaces agricoles, l'appui à la redynamisation de l'activité culturelle et le tourisme sont des éléments que nous allons étudier minutieusement pour apporter des solutions innovantes avec des résultats perceptibles.
Nous écoutions le président du Conseil régional du Poro, Fidel Sarasoro, et puis le bureau d'accompagnement de la reconversion des militaires a organisé du 19 au 20 octobre dernier au 2e bataillon de Daloa des journées carrières autour du thème « La reconversion, deuxième chance pour le militaire et le gendarme en fin de carrière ». Les gendarmes et militaires ont saisi cette occasion pour mieux s'informer sur les opportunités offertes après leur carrière militaire, la fonction publique, les emplois salariés du secteur privé et la création de leur propre entreprise. Le compte-rendu est signé Jean-Noël Kwami.
Le colonel Aké Danho Stéphane, chef du bureau d'accompagnement et de reconversion des militaires, explique l'opportunité de ces journées pour les militaires en fin de carrière.
Ces journées de carrière, ce n'est pas une exhortation à quitter les effectifs des armées, mais plutôt à se préparer à affronter la vie post-carrière. D'abord, il faut être en fin de carrière. Vous partez soit à la limite d'âge, par départ volontaire, soit pour raison de maladie, mais pas pour révocation. Au bureau de reconversion, nous analysons votre démarche, nous faisons des propositions d'insertion, nous vous confions aux partenaires pour vous accompagner. Pour un emploi salarié, nous négocions l'insertion avec l'entreprise. Il y a un décret qui permet aux militaires d'intégrer la fonction publique dans le cadre de la reconversion avec certains profils.
Plusieurs partenaires ont entretenu les gendarmes et les militaires sur le mode opératoire et les domaines de reconversion.
Claudio Henriette, à GIFOP, nous avons fait la formation en entrepreneuriat et les projets sont déposés au FIDRA qui finance ces activités. Dans le domaine de la menuiserie, mécanique générale, développement des caves, location de bâches, de chaises, panneaux solaires, restauration, vente d'accessoires de véhicules, d'eau minérale. Et ceux qui ont été financés, ça marche.
Yao Marie-Yolande, Institut Ivoirien de l'entreprise. On installe l'entreprise au niveau de la gestion. Nous sommes avec eux et un an après, on va les laisser s'envoler de leur propre selle.
Divers autres partenaires, l'ANADER et l'agence emploi jeune, notamment, étaient à ces journées carrières pour accompagner et préparer les militaires en fin de carrière vers la vie civile. Jean-Noël Kwame, d'Aloha, Radio de la Paix.
Parlons d'économie. À partir du début de l'année 2024, les droits de douane entre les transactions entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne n'existeront plus. Cela résulte des accords de partenariat économique signés entre l'Organisation européenne et la Côte d'Ivoire. En revanche, cela pourrait avoir des conséquences, notamment pour les entreprises ivoiriennes, selon les explications de Dr Germain Cramo, enseignant d'économie à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, que nous écoutons.
Pour un bref rappel, il faut savoir que avant les APE, l'Union européenne et les pays d'Afrique, du Caraïbe et du Pacifique ont fait des accords qui facilitaient l'entrée des produits de ces pays-là sur le marché européen, sans droit de douane. Et il s'avérait que ces accords n'étaient pas compatibles avec les règles de l'OMC. Parce que l'OMC demande à ce que si vous accordez des avantages à un pays, il est aussi évident que ces mêmes avantages soient accordés aux autres pays membres de l'OMC. Et donc c'était comme si on était un peu dans l'illégalité selon les règles de l'OMC. Donc pour corriger cela, on a décidé de mettre en place des accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays africains.
Alors quelles sont les conséquences pour d'abord l'économie ivoirienne et partant pour la zone européenne?
Vu que du point de vue de la compétitivité, nos produits sont moins compétitifs vis-à-vis des produits européens. Donc, le danger, c'est que nos entreprises disparaissent. Parce que lorsqu'un bien plus compétitif entrera sur le marché ivoirien, il va sans dire que nos produits ne pourront pas faire face à la concurrence. Déjà, avec la mise en œuvre de cet accord, nous pourrons continuer d'exporter sur ces marchés et aussi pouvoir nous améliorer et faire face à la concurrence. Parce que ces pays imposent des normes pour pouvoir accéder à leur marché. Donc nous serons amenés à améliorer nos processus de production, à obtenir des biens de meilleure qualité pour aussi pouvoir exporter sur ces marchés européens.
À l'instant, Dr Germain Cramo, enseignant en économie à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Cocody. Il était en ligne avec Jean-Claude Comé. Atelier de suivi de la mise en œuvre du plan d'opération de la direction de la zone sud-ouest pour le troisième trimestre. C'est le thème d'un séminaire d'une durée de 2 jours qui s'est tenu à Guiglo dans la région du Cavali. La rencontre a réuni plusieurs experts et personnes ressources de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR dans la région du Tonkwi. Pour Radio de la Paix, Stéphane Adams.
Ces 2 jours de travaux pour la pérennisation du parc de Taï, la population riveraine ont exprimé leurs préoccupations. KIB Robert, porte-parole.
Le parc national Taï. Je suis inquiet sur 2 fronts parce que si on ne fait plus les lions, quelqu'un peut aller faire de n'importe quoi dans le parc pour dire qu'il n'y a pas eu de lions de limitation. Et ça, c'est un problème. Deuxième préoccupation, c'est aussi nos forces, on ne les voit pas dans les villages. C'est pas seulement dans le parc. Or, les braconniers sortent des villages pour aller dans le parc, pour aller braconner. Les agents que nous avons qui viennent un peu dissuader dans les villages.
Le lieutenant-colonel Issa Diarasouba, chef de la cellule de contrôle de planification de l'OIPR, s'est félicité des avancées notables de la protection du parc pour le troisième trimestre de l'année 2023.
À cette étape donc de l'année, au terme du troisième trimestre 2023, nous avons noté avec satisfaction une performance de 79%. En termes de perspective, nous allons élaborer le plan d'action pour l'année 2024 qui va s'organiser autour, à savoir la protection, le suivi écologique et la recherche, l'écotourisme, le management et puis l'appui aux populations de la périphérie.
Représentant le préfet de région du Cavali, Assé Kounan Abel, en fin de rencontre.
Chacun à son niveau a apporté sa pierre à l'édifice pour la qualité des travaux. Au nom de monsieur le préfet, je voudrais remercier chacun d'entre vous. Dis aussi merci aux partenaires financiers de continuer de soutenir la direction pour une gestion efficiente.
Cet atelier a regroupé 37 participants venus de 8 localités du pays. Stéphane Adams, de retour des Guiglo, Radio de la Paix.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Abidjan Legacy Programme, qui a pour but de restaurer les écosystèmes dégradés en vue de l'augmentation exponentielle de la production agricole et de l'amélioration des conditions de vie des populations des zones rurales, une équipe de l'unité de coordination de cette structure gouvernementale a entrepris une mission de terrain depuis le lundi 16 octobre dernier dans les régions du Poro, Tchologo et de la Bagoué afin d'identifier les sites propices à sa réalisation. Écoutons les précisions du coordonnateur du projet Legacy Programme, Abou Bamba, au micro de Marcel Bouni.
La région dispose des atouts naturels, donc notamment les terres, près de 17 000 à peu près kilomètres carrés. Donc nous sommes allés dans les départements de Korogo. L'eau est là, les jeunes sont là, les terres sont disponibles. Donc nous pensons que nous devons être en mesure de pouvoir nous déployer très rapidement. Ensuite, pour la région de Sinematchali, nous avons identifié aussi trois sites. Donc sur les deux départements, c'est pas les terres qui manquent, les terres sont disponibles. Les populations aussi ont accepté de mettre à disposition leurs terres. Il s'agit de projets pilotes afin de pouvoir très rapidement monter en échelle. Nous arrivons à la conclusion que tous les éléments sont là pour qu'on puisse faire encore du Poro le grenier de la Côte d'Ivoire, que ce soit pour le maïs, que ce soit pour le mil, que ce soit pour le manioc, certains tubercules, et même pour le poisson. Le Bandama est un des plus grands fleuves de Côte d'Ivoire, et il est possible effectivement de l'empoisonner, ou bien empoisonner les affluents ou les retenues, les barrages que nous avons, même si nous venons avec la mécanisation. Mais la mécanisation n'exclut pas le travail, et nous allons créer beaucoup d'emplois autour de cette mécanisation, autour de cette transformation, autour de la mise à disposition effectivement des intrants agricoles et de la formation à l'utilisation de ces intrants agricoles et la science et la technologie sur les drones, l'utilisation des drones afin que les jeunes de la région puissent être en mesure de piloter des drones planteurs pour l'épandage des produits, pour le semis et puis pour la surveillance aussi des cultures.
À l'instant, le coordonnateur du projet Legacy Programme, Abou Bamba. Et puis, un mot d'agriculture pour parler de la non-application des prix fixés par l'État en ce qui concerne la commercialisation des régimes de graines de palme. Eh bien, à cet effet, les membres de la Fédération nationale des coopératives et unions de coopératives des planteurs de palmiers à huile de Côte d'Ivoire projettent une grève pour dénoncer l'attitude des membres du Collège des usiniers qui refusent de payer les prix annoncés par le Conseil EVA Palmier à huile. Selon Constantin Koudjo, président du Conseil d'administration de la FENACOPACI, à partir de ce lundi 23 octobre, les producteurs de palmiers à huile en signe de protestation vont bloquer les voies d'accès aux usines si rien n'est fait. Nous l'écoutons.
D'abord, nous, ça a commencé depuis juin. Vous savez que quand les prix étaient à 140 000, l'État avait plafonné. Donc, les producteurs percevaient 80 000 par tonne. Et on avait dit que si les prix chutaient sur le marché, on allait maintenir le prix à 80 000. Quand le marché a commencé à s'effondrer, ils sont revenus pour nous dire d'appliquer le mécanisme, ce qui est déjà contraire à ce qui avait été dit, puisque le mécanisme donnait un montant bas. Bon, comme c'est l'État, les producteurs ne pouvaient faire autrement, donc le producteur a accepté pour appliquer le mécanisme. Trois mois après, les agros disent que le mécanisme ne les arrange pas, parce qu'ils n'arrivent pas à vendre et tout ça. Donc, en l'application du mécanisme, les producteurs devaient avoir 73 000, je crois, 80 francs, la tonne de régime. Et les agros disent qu'ils ne peuvent pas payer, qu'ils vont payer à 61 000. Les producteurs disent qu'ils ne peuvent pas continuer à perdre de l'argent comme ça. Donc, l'État a été informé par le biais du Conseil EVA Palmier, qui a coupé la poire en deux. Quand bien même les producteurs n'étaient pas d'accord, mais comme c'est la voie de l'État, ils ont accepté les 68 000 que le Conseil leur proposait par rapport à la situation du terrain. Les agros maintenant ferment les usines pour dire qu'ils ne peuvent pas payer à ce prix-là. Donc, eux, ils arrêtent de recevoir la production des plantations villageoises. Il y a des usiniers qui ont des plantations et ils ferment, puis bon, et ils travaillent tranquillement. Les producteurs disent qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'on ferme les usines pour les plantations villageoises et que les plantations industrielles doivent travailler, ils ne sont pas d'accord avec ça.
Alors, quelles sont les solutions envisagées à part la grève?
Oui, mais c'est de demander à l'État de contraindre les agros à payer le prix qui revient aux producteurs. C'est juste ça.
Nous écoutions Constantin Koudjo, président de la FENACOPACI, joint par Jean-Claude Comé, qui, dans un souci d'équilibre, a joint également le président de l'Association professionnelle des sociétés agricoles de palmiers de Côte d'Ivoire, qui regroupe les industriels de première transformation. Mais celui-ci a préféré s'abstenir de tout commentaire et a suggéré à Radio de la Paix de joindre le responsable de l'association interprofessionnelle de la filière palmier à huile, l'AIPH, qui regroupe les acteurs du secteur. Dans l'actualité internationale, selon une décision du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en France rendue publique hier dimanche, le gouvernement français a confirmé une première suspension provisoire prise il y a un an. À l'époque, Paris s'était référé à des manquements des autorités malgaches liés à l'adoption internationale. En effet, en 2017, Madagascar s'est doté d'une nouvelle loi en matière d'adoption et 6 ans plus tard, son décret d'application n'est toujours pas mis en œuvre. Et donc face à ce statu quo, les autorités de la France s'alignent donc sur ces dernières recommandations de l'ONU et entérine sa position. Il n'y aura donc plus d'adoption d'enfants malgaches. Et puis, de retour en Côte d'Ivoire, place à l'invité de la rédaction à présent. Et ce matin, c'est le professeur Simplice Dion, également politologue. Avec Constant Maïlé, il évoque les forces et les faiblesses du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, le parti de Laurent Gbagbo, qui a eu 2 ans le 17 octobre dernier dans cet entretien à suivre maintenant.
Professeur Simplice Dion, bonjour.
Bonjour.
Le nouveau parti de Laurent Gbagbo, le PPACI, le Parti des Peuples Africains, a 2 ans. Alors, est-ce que ce parti peut être considéré comme un parti politique essentiel en Côte d'Ivoire ?
Le parti politique de Laurent Gbagbo, le PPACI, est à mon avis un parti essentiel en Côte d'Ivoire, pour au moins 2 raisons. La première raison, c'est que c'est le parti de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, qui est une figure historique et emblématique du combat pour le multipartisme dans notre pays. Et la deuxième raison, c'est que c'est le parti qui, aujourd'hui, porte la voix des sans-voix. Dans un contexte où l'hégémonie du RHDP est en train de chloroformer et de monochromatiser l'opposition, on n'entend plus tellement l'opposition sur des questions importantes. Il n'y a que le parti de Laurent Gbagbo qui essaie plus ou moins, chaque semaine, d'éveiller les consciences, de pointer du doigt un certain nombre de problèmes de société. Et il me semble que de ce point de vue, du point de vue de la prise de parole publique, le parti de Laurent Gbagbo est un parti aujourd'hui important, est un parti essentiel en dehors de la question de la représentation sociologique ou de la représentation en termes de députés ou de maires.
Alors, un parti politique a pour mission première la conquête du pouvoir d'État. Alors, selon vous, est-ce que le PPACI peut compter pour la présidentielle de 2025?
Je crois qu'il y a du travail pour le PPACI. Il y a du travail à faire, il y a beaucoup de travail à faire. Et pour que le PPACI compte pour 2025, il faut d'abord redéfinir la vision du PPACI. Il faut un travail d'introspection. Il faut troisièmement que ce parti revoie son narratif et qu'il l'actualise. On n'est plus dans le contexte d'il y a 10 ans ou il y a 15 ans. On est dans un contexte nouveau avec des problématiques nouvelles, le monde qui bouge. Il est important que le narratif, le discours du PPACI s'actualise. Il faut aussi à ce parti un nouveau leadership, un leadership à construire à l'ombre de Laurent Gbagbo.
Au regard des résultats des dernières élections locales, régionales et municipales, le PPACI n'a obtenu que 6 communes. Dites-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous ?
Ce qui n'a pas marché, il me semble qu'on ne fait pas toujours attention à cela, c'est ce que j'appelle l'impossible retour. Vous voyez, il est plus facile de partir que de revenir, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Quand vous partez, vous laissez un contexte et les êtres et les choses se disposent. Et quand vous revenez, les choses ont changé. Il y a une bataille à revenir. Laurent Gbagbo part pendant 10 ans, il revient 10 ans après, mais les êtres et les choses se sont redisposés. Donc il ne retrouve plus sa maison comme il l'a laissée, il ne retrouve plus son parti comme il l'a laissé. C'est pour cela que je dis qu'il faut reconstruire le PPACI, faute de pouvoir le reconstituer. Il y a du travail à faire et il faut que très rapidement, le PPACI, avec Laurent Gbagbo comme moteur, se réorganise, revoit sa stratégie, reconsidère son discours, s'actualise et je pense que ce parti a les moyens de se réveiller véritablement.
Ce parti, le PPACI, a crié à la fraude à l'issue de ce scrutin et les réclamations auprès du Conseil d'État, il y en a eu 71 en tout. Est-ce qu'il n'est pas temps de tout remettre à plat au niveau de l'organisation des élections pour qu'il y ait au moins un minimum de consensus avant d'aller à des élections en Côte d'Ivoire?
Il faut créer les conditions politiques d'une élection inclusive, faire en sorte que l'organe principal d'organisation de l'élection soit accepté accepté par tous et acceptable pour tous. Et moi, je pense qu'on peut faire mieux.
Le VPACI entend tout mettre en œuvre pour obtenir la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Selon vous, comment l'on peut faire pour en finir avec cette question juridico-politique pour donner la chance à la paix en Côte d'Ivoire?
La solution à ce problème est une solution politique. On sort toujours de ce genre de crise juridique et politique par la politique, c'est-à-dire par le dialogue constructif, par la concertation et par l'apaisement. La paix est au-dessus des exigences juridiques. Et s'il faut gagner la paix en traitant cette question juridique de façon politique, alors moi je suis d'accord. Il faut donc que le PEPACI pose le problème de manière politique, diplomatique, et je souhaite que en face, le gouvernement puisse répondre de façon politique et diplomatique pour que nous partions en 2025 dans la sérénité.
Professeur Simplice Dion, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Vous venez d'écouter l'invité de la rédaction, le politologue professeur Simplice Dion, dans un entretien conduit par Constant Maïlé, qui met un terme à ce journal, dont voici le rappel des titres. Le Conseil régional du Poro tenait sa première réunion ce week-end, au cours de laquelle le président Fidèle Sarasourou a décliné les différents pans de ses actions pour le développement de la région. Et puis la fin des taxes douanières entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne pourrait faire disparaître les entreprises locales parce que celles-ci sont moins compétitives et ne répondent pas forcément aux normes internationales, selon les explications de Dr Germain Cramo, enseignant en économie. Dans l'actualité internationale, pour terminer, la France suspend les adoptions d'enfants en provenance de Madagascar, a fait savoir le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans un communiqué publié hier dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, la revue de presse pilotée aujourd'hui par Francis Cassis.
Bonjour Sonia, bonjour à tous. Un président pour le PDCI après le décès d'Henri Conan Bidier. C'est par ce sujet que nous démarrons notre...